Alors donc, vous êtes prêtes pour le thème d'année? Donc, les béatitudes. On va commencer par la première, pour faire simple. Mais dans la première, il y en a d'autres qui sont contenues. C'est aussi l'introduction aux béatitudes, la première. Hein, donc, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. En fait, déjà la première, c'est pas la même chose dans Saint-Luc et Saint-Matthieu. Saint-Matthieu, c'est « Heureux les pauvres de cœur », Saint-Luc, c'est « Heureux les pauvres », point. Enfin, « Car le royaume des cieux est à eux aussi », mais il ne précise pas « Pauvres de cœur voilà. ». Alors, bon, mais je reviendrai un peu là-dessus. Alors, juste pour dire ce « Heureux les pauvres », alors on le retrouve à diverses reprises dans la parole de Dieu, « Heureux, heureux, heureux ». C'est une manière de dire, mais voilà, vous êtes dans la bonne voie, allez, c'est une parole d'encouragement aussi. Heureux êtes-vous, oui, vous êtes dans la bonne direction, vous n'êtes pas encore arrivé, mais déjà, alors c'est ça un peu, il me semble, le sens de ce heureux. C'est, alors, ça parle du bonheur, bien sûr, mais dans les béatitudes, il y a d'autres béatitudes que dans les béatitudes traditionnelles. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux, je sais plus. Il y en a, vous en trouvez d'autres aussi dans la parole de Dieu. Mais quand on dit heureux ceux qui, c'est une manière aussi d'encourager, hein, parce que peut-être être pauvre, pleurer, tout ça, c'est pas forcément ce qu'on désire à première vue. Voilà. Mais voilà, si heureux êtes-vous. Alors, il y aura deux passages, c'était une rapide introduction, cette fois-ci c'est rapide l'introduction, il y aura deux parties, il n'y en aura pas trois, deux parties mais très inégales, deux parties inégales, parce que, donc je vais vous parler pas mal de la pauvreté sous divers angles, ça sera la deuxième partie, mais ce qui me semble important c'est dès le départ de voir, Jésus n'a pas dit « Heureux les pauvres, point. » Car le royaume des cieux est à eux. Donc, c'est, ma première partie, c'est plutôt la deuxième partie, si vous voulez. Mais la première partie n'a pas beau grand intérêt s'il n'y a pas la deuxième. Donc, je prends d'en voir la première qui est quand même plus motivante. Si, parce que, et je pense que ça, c'est très important parce que quand j'ai commencé à y réfléchir, c'est beau d'être pauvre de cœur, tout ça. C'est... Mais en même temps, on en fait une sagesse humaine. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas autre chose, on n'est pas très décidé à vivre cette pauvreté, être pauvre de cœur, de pleurer, de voilà, enfin, heureux la douceur. Bien sûr que c'est des belles qualités humaines, mais en même temps, c'est important de voir d'abord la motivation. Alors, je peux vous le dire de diverses manières. Déjà, alors, y a une forme de paradoxe hein, dans les béatitudes, on le sait bien. Hein, parce que c'est pas spontané de dire « heureux ceux qui pleurent hein, », ça c'est clair. Mais alors voilà ce que disait le pape François, par exemple, au JMJ en 2014, enfin dans le message qu'il avait écrit pour les JMJ. Les béatitudes de Jésus sont porteuses d'une nouveauté révolutionnaire, d'un modèle de bonheur contraire à celui qui nous est communiqué habituellement par les médias, par la pensée dominante. Alors, ayez le courage d'aller à contre-courant, ayez le courage du vrai bonheur. Dites non à la culture du provisoire, de la superficialité et du rejet. Voilà. Affrontez les grands défis de la vie. Donc voilà, il y a un côté un peu paradoxal. Alors, dit d'une autre manière, il dit, c'est dans la lettre que vous avez certainement lue du pape François parce qu'il vous a écrit une lettre pour vous demander d'être sainte. Vous l'avez lue ? Oh là là, mais il doit être déprimé, le pape. Si vous ne lisez pas les lettres qu'il vous écrit, hein, Gaudete et exultate. Et entre autres, Gaudete et exultate. Réjouissez-vous. Je ne suis pas très bon en latin, hein, donc je vous laisse traduire. Mais c'est l'appel à la santé, la lettre sur l'appel à la santé, je crois qu'il doit être présenté comme ça. Mais oui, voilà. Il y a des bons élèves au premier rang. Et alors, ça se sent très bien. En fait, pour parler de la santé, il y a deux grandes. Il se réfère à deux grands textes d'évangile. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais pris ce thème des béatitudes un peu en écho à cette lettre du pape. Alors, voilà ce qu'il dit dans cette lettre, numéro 65, vous pouvez vérifier. Bien que les paroles de Jésus puissent nous sembler poétiques, heureux les pauvres, elles vont toutefois vraiment à contre-courant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société. Et bien que ce message de Jésus nous attire, en réalité, le monde nous mène vers un autre style de vie. Les béatitudes ne sont nullement quelque chose de léger ou de superficiel. Bien au contraire, nous ne pouvons les vivre que si l'Esprit-Saint nous envahit avec sa toute-puissance et nous libère de la faiblesse, de l'égoïsme, du confort, de l'orgueil. Et il y a un côté douloureux et exigeant dans les béatitudes, qui ne va pas de soi. Et du coup, on pourrait penser que c'est une utopie, quelque part, ces béatitudes. Mais c'est une chose qui me paraît importante. Les apôtres étaient-ils partants pour vivre les béatitudes Non, je vais poser la question autrement. À partir de quel moment les apôtres ont commencé à être d'accord pour vivre les béatitudes? Avant la résurrection, c'est bien beau, mais... c'est bien beau, mais c'est comme beaucoup de paroles de Jésus dans l'évangile. Alors, les évangiles ont été écrits après la résurrection, mais si Jésus n'était pas ressuscité, ils auraient remis tout ça dans les cartons. Et puis voilà, ça a pris du sens ces paroles parce que Jésus est ressuscité. Mais s'il n'était pas ressuscité, c'est très beau ce qu'a dit Jésus, mais c'est invivable. Aimer ses ennemis, tout ça, bon, c'est très bien. Mais ça prend du sens quand Jésus est ressuscité. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, bon, oui, mais si on n'a que cette vie-là, bah, assurons notre vie pour... Mais justement, la résurrection, ça change tout, parce que justement, Jésus nous ouvre une autre perspective. Alors, on peut les vivre. On voit que ça vaut la peine de les vivre, mais parce qu'il y a une perspective derrière. S'il n'y a pas la perspective derrière, heureux ceux qui pleurent, bah, moi, je j'adhère pas. Je ne peux adhérer que parce qu'il y a la promesse derrière. C'est Benoît XVI le disait d'une manière très belle. C'est dans Jésus de Nazareth, à la page 97. Alors, je ne sais plus quel tome. Ça doit être le premier, celui-là. Donc. Oui, je pense. Les béatitudes sont la transposition de la croix et de la résurrection dans l'existence des disciples. Les béatitudes sont la transposition de la croix et de la résurrection dans l'existence des disciples. Et je crois que c'est vraiment le cœur des... On est vraiment au cœur. S'il n'y a pas la résurrection de Jésus, non, les béatitudes, non. Le premier membre de la béatitude, c'est plutôt la croix, et le deuxième membre, c'est la résurrection. Mais juste la croix, oui, mais on adhère à la croix parce qu'on sait que Jésus est ressuscité après. Parce que Jésus, à vous... c'est dans les Actes des Apôtres, il nous est dit « Dieu nous a donné une garantie sur Jésus en le ressuscitant d'entre les morts. » Le vendredi saint, on peut dire « Jésus nous a aimés jusqu'au bout », ça on peut le dire. Il était sincère, ça on peut le dire. Est-ce que c'était vrai? Ça on ne peut pas le dire le jour de la croix. On peut le dire seulement le matin de Pâques parce que Dieu a donné une garantie. Non seulement il était sincère, mais en plus c'était vrai. Vous voyez le... Les béatitudes, on peut être très sincère, heureux, les pauvres. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement d'être sincère, c'est que ça soit vrai. Ça change tout. Hein. Il y a une différence entre la sincérité et la vérité. Et du coup, la résurrection, c'est le saut de vérité de toutes les paroles que Jésus a dites avant sa croix. Mais s'il n'était pas ressuscité, bon, il nous a dit des belles choses, Jésus. Mais soyez tranquilles, les apôtres, ils avaient déjà commencé à retourner à la pêche et tout ça. La vie aurait repris comme avant. Mais justement, Ce qui change tout, c'est la résurrection. Et ce qui change tout dans les béatitudes, c'est la deuxième partie qui nous est comme rendue évidente par la résurrection de Jésus. Voilà, alors pour revenir à ça, c'est, il me semble toujours important de, dans les béatitudes, de bien avoir gravé dans nos esprits que ce qui est important, c'est, enfin les deux sont importants, mais la première partie des béatitudes n'a pas son sens sans la deuxième partie. Sinon, c'est qu'une sagesse humaine, une belle sagesse humaine pour vivre la non-violence, etc. Bon. Mais nous, ce n'est pas seulement la non-violence qu'on veut vivre, c'est, on veut aller au ciel, c'est pas la même chose quand même. Alors bien sûr, je ne suis pas contre la non-violence, mais... Alors, je vous lis le pape François. Ça, c'était le 29 janvier 2017. Le motif de la béatitude, c'est-à-dire du bonheur, ne réside pas dans la condition requise, pauvre de cœur. Ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, persécutés, mais dans la promesse qui la suit, à accueillir avec foi comme don de Dieu. On part de la condition difficile pour s'ouvrir au don de Dieu et accéder au monde nouveau, le règne annoncé par Jésus. Ce n'est pas un mécanisme automatique, mais un chemin de vie à la suite du Seigneur, sur lequel la réalité de malaise et d'affliction est vue dans une perspective nouvelle et expérimentée selon la conversion qui se met en œuvre. J'aime bien cette expérience. Et les béatitudes, c'est vraiment un chemin de vie qui nous est offert. Bien sûr que la pauvreté, mais ce n'est pas pour en rester là, c'est parce qu'il y a une promesse à l'autre bout. Donc, ou alors, Raniero Cantalamessa. Comme ça, ça sera clair. Hein. Je me répète un peu, mais... Jésus n'a jamais dit simplement « Heureux les pauvres de cœur ». Il n'a jamais... envisager de dire une chose pareille. Il a dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux », ce qui est très différent. On fait une interprétation complètement fausse de la pensée de Jésus et on la banalise lorsqu'on ne cite que la première moitié de la phrase. Il ne faut pas séparer la béatitude de sa raison. Pour donner un exemple grammatical, ce serait comme énoncer une proposition subordonnée sans proposition principale. Supposons que quelqu'un dise « Si aujourd'hui vous semez, qu'est-ce qu'on comprend ? Rien. Mais si on ajoute « demain vous récolterez », subitement tout devient clair. Ainsi, si Jésus avait dit simplement « heureux les pauvres », la phrase semblerait absurde. Mais lorsqu'il ajoute « le royaume des cieux est à eux », tout devient compréhensible. Hein, toujours dans cette même veine. Vraiment, sinon on ne fait qu'une sagesse humaine, et puis voilà, mais voilà, là... Vraiment, au centre de notre foi, c'est vraiment la mort et la résurrection de Jésus. Hein. Sinon, c'est des textes... On peut nous trouver beaucoup de textes de sagesse qui sont beaux, et voilà, mais... Voilà. Et alors, ce qui est important dans les béatitudes, c'est que le fruit n'est pas seulement dans l'avenir temporel, mais dès maintenant, même si, bien sûr, le ciel ne va pas venir sur la terre de façon en plénitude. Hein, on aura encore quelques larmes avant la fin de nos jours, je pense. Mais alors c'est Guérit Digny qui disait que à partir du moment où on vit les béatitudes, on commence à entrer en possession du royaume. Alors je prends un exemple. Si déjà vous commencez à vivre le pardon en famille, ben vous vous approchez un peu plus du paradis et un peu moins de l'enfer. Pour dire les choses... voilà, vive les béatitudes. Déjà, on vit quelque chose du ciel si on le vit en famille. Bon, alors, on n'est pas parfait et tout ça, donc on n'est pas encore arrivé, mais on a déjà quelque chose du ciel. Ce n'est pas uniquement à venir dans très longtemps, à la fin de nos jours. C'est dès maintenant, on peut déjà en goûter quelque chose, comme dans notre vie communautaire, c'est le paradis, quasiment. Il y a encore un petit bémol, quand même. Mais voilà. Autre chose qui est intéressante, toujours en... vous connaissez le... Alors, je ne suis pas très devant en latin, encore une fois, le passivum... Je voulais vous en parler. Divinum. Passivum dominum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot? Le passif divin, hein, pour dire en français plus simplement, moins pédant. Le passif divin, c'est que dans les béatitudes, on dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Mais c'est une tournure, une manière de parler juive pour ne pas nommer Dieu. Mais le royaume, c'est Dieu qui va nous le donner. On nomme pas le nom de Dieu, c'est un passif. Mais derrière ce passif, c'est Dieu qui est agissant. Hein, donc, c'est bien de le savoir. C'est pas seulement une tournure grammaticale, c'est quelque chose... voilà, la récompense, c'est Dieu qui la donne. Non, mais ça vient pas... Enfin, ça tombe du ciel, si vous voulez, mais le ciel, c'est le bon Dieu qui nous donne. Et autre chose intéressante que dit Raniero Cantalamessa, si on commence à vivre les béatitudes, c'est que déjà on a trouvé quelque chose du royaume. Hein, comme ce. Alors, voilà ce qu'il dit. Nous pouvons dire des pauvres volontaires ce que Jésus dit des eunuques. Il y en a qui sont pauvres de naissance, qu'ils sont devenus par l'action des hommes. Il y a des pauvres qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. L'illustration, c'est les paraboles de la perle précieuse et du trésor caché. On ne dit pas que voilà, il va vendre tout ce qu'il a, et puis il va voir s'il va aller à la recherche d'un trésor, ou pareil pour la perle. Il vend tout ce qu'il a et puis il cherche une perle qui sera encore mieux. Non, il a déjà trouvé la perle. Il a déjà trouvé le trésor dans le champ. Alors, il rebouche pour qu'on ne voit pas, parce qu'il ne pourrait pas acheter le trésor. Il pouvait. Mais du coup, il y a quelque chose de ça aussi dans les béatitudes. Déjà, on a entrevu, parce qu'on a foi en la mort et la résurrection de Jésus, on a entrevu déjà quelque chose de le royaume des cieux est à eux. Et parce qu'on l'a déjà entrevu, alors... on commence à se retoucher les manches pour essayer de vivre heureux les pauvres. Alors. Et quand, alors je vous parlais du passif divin, hein, c'est finalement les béatitudes, derrière l'expression le royaume, c'est Jésus. Heureux les pauvres, car le royaume est à eux, mais c'est Jésus qui est à quelque part de. Que ça reste pas trop abstrait, c'est vraiment un Dieu personnel qui nous est donné, avec qui on entre en communion. Donc voilà, c'est. Et c'est cette communion avec Jésus, justement, qui est pauvre, humble, etc., qui est source de joie aussi. Bon, alors, je passe à la deuxième partie, beaucoup plus longue. Il ne faudra pas que je sois trop long quand même. La pauvreté. Donc, je pense que c'est clair. Hein, je voulais insister lourdement. Voilà, s'il n'y a pas la deuxième partie des béatitudes, on s'arrête là. Et puis, voilà, ceux qui ont le goût du sacrifice, ils s'y lancent. Mais ceux qui n'ont pas trop le goût du sacrifice, bon, ils restent sur place. Voilà. Mais alors, heureux les pauvres. Alors, je vais suivre grosso modo ce que le plan de Raniero Cantalamessa dans ce petit livre. Alors, il a été réédité, il en avait écrit sur la pauvreté, la virginité et l'obéissance, et ils en ont fait un seul livre. Le titre du livre, c'est « Aimer autrement », c'est sur la vie religieuse, grosso modo, pour faire simple. Mais, donc là, c'est une des parties, c'est la pauvreté uniquement. Et donc, il divise, pour faire simple, je me suis dit comment... Il dit... D'abord, une pauvreté matérielle, négative, positive, et une pauvreté spirituelle, négative et positive. Donc, quatre parties, pauvreté matérielle négative, pauvreté matérielle positive, pauvreté spirituelle négative, pauvreté spirituelle positive. Donc, c'est le plan. Quatre parties dans la deuxième partie. Bon, alors... « La pauvreté matérielle négative, donc ce serait plutôt la misère. Alors, quand Jésus dit « heureux les pauvres », alors, c'est clair que Saint Luc ne dit pas « heureux les pauvres de cœur ». Et Saint Luc, on le lit tous ces dimanches, souvent les questions matérielles, hein, et sur l'argent et tout ça, Saint Luc insiste aussi pour un détachement par rapport à l'argent, plus peut-être que les autres évangélistes. Et lui, c'est « heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux ». Matthieu, c'est « heureux les pauvres de cœur ». C'est un petit peu différent, mais bon, ils se rejoignent hein, de toute façon. Mais en tout cas, de toute façon, même pour Saint Luc, quand Jésus dit « heureux les pauvres », il ne dit pas « vive la misère ». C'est pas, il ne faudrait pas mal comprendre les béatitudes. Ce qui est clair, et pour Saint Luc aussi, c'est qu'il faut mettre des bonnes priorités. Hein. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il ne dit pas qu'il faut jeter l'argent. Il dit qu'il faut mettre Dieu en premier. Il n'y a qu'une finalité, c'est Dieu. L'argent, c'est qu'un moyen. On dit que quelqu'un a les moyens, mais on ne dit pas que quelqu'un a la faim. Voilà. Mais quand il a des sous. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'il y en a du coup qui font de la pauvreté un absolu, la pauvreté matérielle un absolu. Ça n'a jamais été un absolu pour Jésus. Et pire encore, il y en a qui font des riches, enfin de combattre les riches comme une gloire. Jésus n'a pas combattu les riches en tant que tel. Jésus, il a donné sa vie pour tous, les pauvres comme pour les riches. Bien sûr, mais il est dit « heureux les pauvres ». Et puis les pauvres ont plus de chances d'entrer dans le royaume que les riches, ça oui il l'a dit, mais le but de Jésus c'est de sauver tous, hein, donc quelquefois il y a une idéologie qui s'est mise derrière mais qui n'est pas du tout dans l'évangile. D'ailleurs Jésus avait des gens qui n'étaient pas pauvres. Où a-t-il été enterré Jésus? Dans un tombeau de Joseph d'Arimathie qui avait des sous, hein. Il allait chez les pauvres, mais il allait chez Zachée. voilà, et apparemment, il avait des sous, Zachée. Hein. Donc Jésus, il n'y a pas d'idéologie dans la manière de faire de Jésus. Et Jésus n'a pas cherché à être le plus pauvre possible. On voit bien à la croix, il avait une tunique sans couture. Ce n'est pas le plus misérable qui avait une tunique sans couture. Et il avait un métier... C'était pas le prolétaire non plus Jésus. Alors il est né dans une étable aussi, donc il faut reprendre tous les éléments aussi de la vie de Jésus. Il n'a pas vécu dans un palais comme un riche, ça c'est vrai aussi. Mais il n'a pas vécu non plus dans la misère. Hein, je pense que c'est important. Donc Jésus n'idéalise pas la misère. Et Jésus n'a pas revendiqué tant la pauvreté que la charité. Bon, je ne vais pas... Mais dans l'Ancien Testament en particulier, la richesse était vue comme une bénédiction de Dieu. Hein, Abraham, vous vous rappelez tout. Mais vous vous rappelez de Job, ça c'est assez significatif. Comme à l'époque, on ne voyait pas le royaume des cieux est à eux, donc il vaut mieux retrouver sur la terre plein de choses. Donc après toutes ces épreuves, il en a encore 10 000 chameaux au lieu de 2 000, enfin je ne sais plus, et puis je sais plus, que je vous lise ça. Ah oui, au double. À la fin du livre de Job, le Seigneur restaura la situation de Job, tandis qu'il intercédait pour ses amis. Et même le Seigneur accrut au double tous les biens de Job. Le Seigneur bénit la condition dernière de Job plus encore que l'ancienne. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 filles et 3 filles. Voilà. Mais ce qui était beau aussi dans ces richesses que pouvait posséder Job ou Abraham, c'est vous vous rappelez vers le début du livre de Job, et ce qui est beau, c'est à un moment où il perd tout, Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Il avait ce sentiment aussi que ses richesses, il les tenait de Dieu. C'était... Voilà, alors tout ça, en tout cas, c'était pour vous dire que, voilà, il ne s'agit pas de magnifier la misère, bien entendu. Dans la Bible, quelquefois, ils ont des paroles un peu dures sur les pauvres. Pas toujours, mais certaines fois. Par exemple, quand c'est le paresseux, alors je vous lis un peu de 2-3 phrases des proverbes. « Va voir la fourmi paresseux, observe ses mœurs et deviens sage. Elle qui n'a ni magistrat, ni surveillant, ni chef, durant l'été, elle assure sa provende et amasse au temps de la moisson sa nourriture. Jusque à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu s'assoupir, un peu croiser les bras et en s'allongeant, et tel un rôdeur viendra l'indigence, la disette comme un mendiant. » Donc, la Bible, quelquefois, voilà, elle n'invite pas à glisser vers la misère parce qu'on ne fait rien. Elle nous invite aussi à être... voilà. Elle apparaît quelquefois comme un châtiment, la misère. Mais en même temps, assez vite quand même dans la parole de Dieu, on dissocie la pauvreté c'est pas forcément une faute d'être pauvre. Hein, parce que à l'évidence, il y a des riches qui ont vraiment fait une vie exemplaire, et puis il y a des pauvres, mais apparemment, ils ont une belle vie, un beau cœur. Et Dieu, dans la Bible, demande, ça revient constamment, de ne pas oublier les pauvres. L'aumône est quand même quelque chose de très fort. Voilà. Donc, quand il y a cette première béatitude, c'est bien sûr pour pas, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais pour pas magnifier la misère. Hein, heureux les pauvres, c'est pas vivre la misère. Hein, ça, c'est absolument clair. Et on peut pas invoquer les béatitudes pour dire ben, heureux vous les pauvres, ça serait un peu, voilà, un peu déplacé quand même de. Voilà. Parce que le bon Dieu nous dit, mais et toi, qu'est-ce que tu fais pour que le royaume des cieux leur arrive? Et qu'il soit, voilà. Donc ça doit être tout à fait clair. Après, donc ça c'était la pauvreté matérielle négative. Deuxième, pauvreté matérielle positive. Mais donc Saint-Luc parle de heureux les pauvres, matériellement parlant, dans le sens où on fait dans une certaine pauvreté, ça peut être l'occasion de rencontrer Dieu, et que les pauvres sont quelquefois beaucoup plus proches de Dieu que les riches. Donc Saint-Luc en particulier, mais les autres évangélistes aussi, insiste sur cette pauvreté. Un autre mot qu'on pourrait prendre pour, parce qu'il y a différentes facettes de cette pauvreté, il y a la sobriété. Le pape François aime bien parler de la sobriété. Alors c'est assez large, la sobriété, ça peut être la boisson bien sûr, mais la sobriété dans la possession. C'est la capacité de se modérer, d'user sagement des biens, de s'en servir sans être asservi. Une certaine modération, et qui va à l'inverse de ce que le pape François appelle la consommation vorace. Sobriété, consommation vorace. L'expression est quand même assez évocatrice. Et ça passe cette sobriété passe par de multiples petites choses dans notre vie. Ça peut être de limiter nos besoins, parce qu'avec la société de consommation, nos besoins sont toujours plus grands. Ça peut être, on en veut toujours plus. Ça peut être de prendre des choses simples, ordinaires, et pas toujours le top. C'est pas défendu d'avoir du goût hein, non plus. Hein. Pas obligé de prendre la chose la plus moche, mais bon. Ça peut être aussi sur une exigence Bon, un peu comme Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Pas faire une montagne sitôt qu'il nous manque une petite affaire. Qui fait tout simple ou qui fait. Voilà. Ça peut être aussi le fait de savoir se priver telle ou telle fois. On a peut-être envie de telle ou telle chose, mais voilà, des nouveautés inutiles en particulier. Bon, alors, quelques citations. Il en parle souvent, le pape François. Par exemple, dans Laudato si, donc sa lettre sur l'écologie. Alors, il parle de la sobriété qui va avec une forme de, une certaine simplicité de vie. Je ne vous lis pas tout parce que c'est au numéro 222-223, vous pourrez aller voir si vous voulez, dans Laudato aussi. Par exemple, l'accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque jour, chaque chose et chaque moment. En revanche, le fait d'être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d'épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Voilà. Oui, cette manière d'apprécier des petites choses, on voit bien, à la limite, si, quand on prend un repas, si on est un peu glouton, on absorbe, on ne sait même pas ce qu'on a mangé après le repas, à la limite, c'est un peu dommage, tant qu'à faire. Mais d'apprécier aussi les choses que la cuisine de Carla, par exemple. Voilà. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Mais c'est vrai que l'image de la nourriture est assez parlante. Si on a trop mangé, on n'est pas dans une forme excellente. Pour m'écouter après le repas. Mais voilà, c'est comme ça. Donc la sobriété, mais au-delà de la nourriture, de la possession, etc., quand, de garder un certain creux, un certain vide, pas être toujours... Oh, y a des phrases, ça viendra peut-être après, mais peu importe. C'est le psaume qu'on dit... C'est le psaume 48, je crois, c'est le mardi soir dans la liturgie des heures. Alors, l'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. Et c'est un refrain qui revient. L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. Quand le bétail est bien gras, bon, il n'y a plus rien à faire, on l'abat et puis ça se termine là. Mais donc c'est assez... Voilà, l'homme comblé, c'est... Où le pape en parlait encore dans une homélie de Noël. Alors, il évoquait Jésus qui était né pauvre. Et après, dans une société souvent éprise de consommation et de plaisir, d'abondance et de luxe, d'apparence et de narcissisme, lui nous appelle à un comportement sobre, c'est-à-dire simple, équilibré, cohérent, capable de saisir et de vivre l'essentiel. Alors donc, c'est la pauvreté qui se manifeste par le détachement, mais qui se manifeste aussi par la sobriété. Alors, le détachement, je vous en ai un petit mot. Ça peut être, oui, bon, ce que j'ai déjà un petit peu évoqué, quand on est très attaché aux choses, ben, on en fait tout de suite une montagne si on ne l'a pas, tandis que si on est un peu plus détaché, voilà, de ne pas être esclave de ce qu'on possède, pas être possédé par ce qu'on possède, en quelque sorte. Voilà. Alors ça peut être, nous, on essaie de le vivre par la mise en commun des choses. Ou ça peut être dans le fait de donner. Ah, dans l'évangile du jeune homme riche, que vous retrouvez entre autres dans saint Matthieu au chapitre 10, qu'est-ce que demande Jésus ? Oui, il dit deux choses. Alors, dans l'histoire de l'Église, on a insisté plutôt sur le premier ou sur le deuxième. Va, vends tout ce que tu as, dépouille-toi. Et d'autres insistent plus sur donne-le aux pauvres. Ce qui est important, c'est de donner aux pauvres. Mais les deux vont ensemble. Hein. Il y a une certaine... je pense qu'on a besoin à la fois des deux. La pauvreté, c'est jamais pour se recentrer sur soi-même, de toute façon. Alors, il y en a qui l'ont fait de... Par exemple, on voit les Dominicains, comment ils ont fait pour au moment de l'hérésie des cathares. Alors, il y avait les Cisterciens à l'époque qui arrivaient assez riches, etc. Et leurs paroles n'avaient aucun impact sur les... Parce que le mode de vie des cathares était beaucoup plus simple, etc. Du coup, les gens... apprécier mieux les cathares que les cisterciens. Et du coup, pour combattre l'hérésie, saint Dominique, justement, a demandé à ses frères la pauvreté, a proposé une voie de pauvreté. Et à ce moment-là, du coup, c'est là que les choses ont basculé, justement. Que les, voilà, cette pauvreté, cette... Et à d'autres moments de l'Église, ça pouvait être justement le fait à la fois d'avoir... un dépouillement, mais à la fois de s'occuper des malades ou des... Voilà, de... Donc, mais les deux ne s'opposent pas, et voilà, mais vont ensemble. Et puis la pauvreté, ça va toujours un peu dans le même sens, mais s'il y a une pauvreté, c'est pour être en relation. Encore une fois, ce n'est pas pour se renfermer sur soi-même. Ça n'a pas de sens, la pauvreté. Le dépouillement qui aurait sa finalité en lui-même. Parce qu'en fait, oui, Jésus, il dit même trois choses. Hein. Il dit, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Hein, mais le détachement, il est finalisé par une certaine relation aux pauvres et une relation à Jésus. Hein, mais le détachement pour lui-même, ça n'a pas trop de... ça n'a pas son but en lui-même, le détachement. Et je pense que c'est bien que ça résonne en nous. Aussi, si on se détache, c'est peut-être pour donner plus de place à la relation. Ça, c'est une chose qui revient souvent dans l'Évangile. Vous vous rappelez de l'intendant malhonnête. Rends-moi des comptes de ta gérance, etc. Il dit, qu'est-ce que je... Aucune envie d'aller bêcher, c'est trop fatigant. Je... Mon Dieu, alors là, j'aurais honte. Voilà. Oh, mais je vais écrire, il falsifie un peu les choses. Bon... Mais quelque part, il crée de la relation à ce moment-là, pour avoir des amis qui l'accueilleront. Alors, ce n'est pas sur le procédé que l'évangile, auquel l'évangile veut nous encourager, c'est plutôt sur ce fait de créer de la relation. Tu as des biens, mais que ces biens servent à la relation. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi une étude de l'université de Berkeley aux États-Unis. Certainement. Alors, c'était une étude, c'est il y a 10 ans à peu près, cette étude. Ils ont fait, et elle a montré que les riches étaient moins sympas que les pauvres. Alors, pour mener l'expérience, je vous lis, hein. Des chercheurs américains ont recruté 100 d'étudiants qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Ensuite, ils ont organisé des rencontres en face à face. Enfermés à deux dans une pièce, on leur a laissé 1 minute pour discuter et faire connaissance. Comme ces entretiens étaient filmés, les chercheurs ont pu décortiquer le comportement de chacun. Résultat, les psychologues se sont rendus compte que les étudiants venant d'un milieu modeste adoptaient une attitude d'ouverture et d'écoute à l'égard de leur interlocuteur. Alors, par les mouvements de tête, tout ça, les yeux, enfin. En revanche, ceux qui étaient, venaient d'un milieu plus aisé, leur attitude témoignait d'un mépris de leur interlocuteur, qui se manifestait par le fait d'éviter tout contact visuel, une manière de tripoter un objet sur la table ou des mouvements d'impatience. Voilà. Alors, je trouve que c'est intéressant de, le lien entre justement le fait de... Voilà, quand on a trop de bien, peut-être qu'on est moins ouvert, moins disposé à la relation avec les autres. C'est pas automatique, il y a des pauvres qui peuvent être pas du tout disposés à la relation, et il y a des riches qui peuvent être très disposés à la relation. Mais là, c'était quand même intéressant, une étude, comme ça, neutre, hein, c'était pas... qui... alors, ils vont à même... Je vous lis la suite ou pas de l'étude. Selon ces chercheurs, le comportement des étudiants se rapproche finalement de celui des animaux. Dans la nature, les animaux dominants ont la priorité pour l'accès à la nourriture. Du coup, ils n'ont pas besoin d'être sympas. Tandis que les dominés, eux, doivent attendre leur tour pour se nourrir, ce qui les oblige à être respectueux des plus forts. À l'image du paon qui fait la roue, la gestuelle du riche est une manière de signifier à son interlocuteur « Je vais bien, je n'ai pas besoin de vous ». Quant aux moins riches, ils ont besoin de relations sociales pour survivre. Voilà. Et, bon, je trouvais ça intéressant, comme, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était juste pour le fait de dire que la pauvreté, la bonne pauvreté matérielle est bonne dans la mesure où elle nous ouvre à la relation et elle ne... Ça se manifeste dans des choses très simples. Hein. Si on n'a qu'une télévision à la maison, ben, il faut bien se mettre d'accord. On peut se disputer aussi, mais voilà. Si on n'a qu'une voiture, ben, il faut bien aussi se mettre d'accord. Voilà. Donc ça oblige à la relation. Hein. Si on voyait autrefois dans une ferme, si on n'a qu'un outil pour trois fermes, ben, il faut bien... il faut bien... Voilà. Mais la richesse a tendance à couper la relation, quelquefois. Ce n'est pas automatique, encore une fois, mais la pauvreté, quelquefois, nous oblige à recourir aux autres. Et la richesse, nous, sans que ça soit volontaire, ben, finalement, on n'a pas besoin des autres. Je prends ma voiture, mais chacun a sa voiture, ça simplifie. Il n'y a plus de disputes, mais il n'y a plus de relations non plus. Voilà. Enfin, c'est un peu simplifié, mais c'est un peu ça. Alors, il faut que j'avance. Donc, maintenant, je vais venir... à la pauvreté spirituelle. Donc, il y en a une bonne et il y en a une mauvaise. Je vous ai évoqué l'évangile du jeune homme riche. Alors, ce serait plutôt la mauvaise pauvreté, la mauvaise richesse plutôt. Donc, une mauvaise pauvreté spirituelle parce que finalement, ça se termine mal, il s'en alla tout triste. Voilà. Et puis juste après, c'est l'épisode des apôtres. Mais alors, qui aura-t-il pour nous, puisqu'on a tout quitté pour te suivre? Alors vous aurez le royaume. Et puis alors c'est Saint Marc qui dit aussi des persécutions en prime, etc. Voilà. oui, le centuple ici-bas est la vie éternelle. Voilà. Mais du coup, quelque part, c'est soit on choisit le jeune homme riche comme modèle, soit les apôtres. Alors, la pauvreté spirituelle négative, la pauvreté des riches. Il y a un verset dans l'Apocalypse qui en parle bien. C'est au début quand l'ange parle aux différentes églises, et voilà ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Tu ne vois donc pas... C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre. Et avant, il lui dit, oui, tu dis, me voilà riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois pas, c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre. Voilà. Et cette mauvaise pauvreté, cette mauvaise richesse, en tout cas, on ne peut pas dire, oui, c'est... Alors, je suis Raniero Cantelamessa qui dit qu'il y a un motif sapientiel un motif eschatologique. Je pense que ça vous donne beaucoup d'émotion de vous dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est simple, hein, derrière. C'est que, ben, finalement, réfléchis un peu, d'avoir plein de richesses, quand tu mourras, qu'est-ce que tu en feras ? Tu auras beaucoup accumulé, tout ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire du monsieur qui était très riche et qui voulait être enterré avec tous ses biens ? Non ? C'est donc un monsieur qui est très, très riche et il veut être enterré avec tous ses biens. Et puis, mais du coup, sa veuve, elle se dit, mais avec quoi je vais vivre ? Si. Et son fils, qui avait le sens des affaires, lui dit, t'inquiète pas, maman, à combien tu évalues sa fortune ? Mettons, 10 millions d'euros. Bah, tu lui fais un chèque de 10 millions d'euros, tu lui mets dans le cercueil et tu prends les choses. Il ira le toucher s'il en a besoin, son chèque. Mais pour revenir à la pauvreté, au motif sapientiel de sagesse qui revient souvent dans la parole de Dieu, c'est de se dire, mais oui, c'est très bien d'avoir plein de choses, mais tu vas vivre combien d'années et puis après, qui l'aura ? Des enfants peut-être. Mais c'est où places-tu ta sécurité ? Une autre manière de le dire aussi, c'est où places-tu ta sécurité ? Alors aujourd'hui, on a plein d'assurances pour plein de choses, mais. Alors je ne suis pas contre les assurances non plus. Mais en même temps, quelque part, on perd quelque chose de s'abandonner entre les mains de Dieu. Hein? Les choses ne sont pas si simples que ça. Hein? Je ne suis pas contre les assurances encore. Mais en même temps, dans notre vie, quelquefois, on veut tout assurer et surtout pas dépendre de Dieu. Ça demande d'y réfléchir à deux. Hein. Je vous dis pas de circuler en voiture sans assurance. N'allez pas dire ça. Bien entendu. Mais ça induit un certain état d'esprit. Et quelquefois, quand on a des assurances absolument pour tout. Et du coup, on n'est pas eu dans le même rapport exactement. Hein. Il y a des rapports un peu plus durs et un peu, voilà, j'y ai droit. Et puis, voilà. Oui, c'est Dieu finalement qui doit être notre sécurité, pas les. Voilà. Et peut-être la sécurité, oui, c'est ça, un Dieu qui soit notre sécurité. Bon, je ne développe pas davantage parce que le temps tourne. Et puis il y a un motif qu'on appelle eschatologique. Alors c'est le pape François qui disait les pauvres ressortent comme ceux qui gardent la destination du royaume des cieux éveillée. Les pauvres, ils savent qu'ils sont faits pour le royaume. Les riches, ils ont eu tendance à l'oublier, ils sont trop occupés à gérer leurs biens, etc. Du coup, ils oublient un peu le ciel pendant ce temps-là. Et ça, derrière ça, il y a cette prétention du riche à se sauver tout seul, à être indépendant. On l'a un tout petit peu évoqué. Avec la richesse, quelquefois, il y a une forme d'arrogance. C'est quand il disait que les riches étaient sympas et les pauvres. Il y a de ça aussi. Quand je sais que je possède, quand j'ai les moyens de pouvoir avoir un bon avocat, tout ça, quelquefois, on a. Voilà. Il y a une forme d'autosuffisance, etc., mais qui ne vaut pas simplement au niveau de la terre, mais vis-à-vis de Dieu aussi. Alors, déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient, mais est-ce que tu te confies dans les alliances que tu peux faire avec les Égyptiens, ou est-ce que tu te confies en Dieu ? Où mets-tu ta sécurité encore ? Alors, je vous lis le pape François, c'est le numéro 68 de la lettre sur la sainteté. Quand le cœur se sent riche, il est tellement satisfait de lui-même qu'il n'y a plus de place pour la parole de Dieu, pour aimer les frères, ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus grands biens. C'est pourquoi Jésus déclare « Heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté constante. C'est, voilà, ce motif, c'est eschatologique, c'est cette ouverture aussi du cœur et des yeux vers Jésus. Et de... Voilà, on voit que la richesse ferme les yeux. La parabole du riche opulent et du pauvre Lazare, c'est ça. Le riche, il avait oublié le pauvre Lazare, il ne le voyait plus parce qu'il était trop occupé à ses richesses. Et du coup, la relation... voilà. Je passe à la quatrième... Le quatrième paragraphe sur la pauvreté spirituelle positive. On va terminer quand même sur du positif. Hein. Alors, il y a des choses que je reprends un petit peu, mais elle est positive parce qu'elle nous ouvre une relation à la fois vis-à-vis de Dieu et à la fois vis-à-vis du prochain. Vis-à-vis de Dieu, souvent associé à la pauvreté, c'est l'humilité. C'est l'aspect un peu négatif, on pourrait dire. Et puis l'aspect plus positif, c'est la confiance, humilité et confiance. Ça, c'est deux qualificatifs, deux caractéristiques qui viennent avec la pauvreté. C'est Saint Léon le Grand qui dit que les pauvres obtiennent la vertu d'humilité plus facilement que les riches. Alors, il y a encore tout un paragraphe du pape François, c'était le 29 janvier 2017. Le pauvre en esprit est celui qui a assumé les sentiments et l'attitude de ces pauvres qui, dans leurs conditions, ne se révoltent pas, mais savent être humbles, dociles, disponibles à la grâce de Dieu. Le bonheur des pauvres de cœur, a une double dimension vis-à-vis des biens et vis-à-vis de Dieu. À l'égard de Dieu, elle est louange et reconnaissance que le monde est bénédiction et qu'à son origine, il est l'amour créateur du Père. Voilà, c'est cette ouverture. Celui qui est pauvre de cœur écoute avec respect, se remet volontiers aux décisions d'autrui. Il privilégie le partage sur la possession. Bon, je ne vais pas m'étendre davantage, mais c'est cette pauvreté spirituelle positive, déjà vis-à-vis de Dieu, elle va de pair avec la confiance et l'humilité. Et puis après, vis-à-vis du prochain, alors vous savez combien le pape, pape François, y est attaché. Non, ça c'est... je ne sais plus qui le dit. Je crois que c'est Raniero Cantalamessa. Jésus conseille aux riches de transférer leurs capitaux à l'étranger. Pas en Suisse, mais au ciel. Alors, ce que dit Saint Augustin, pour transférer vos biens au ciel, Dieu t'offre. C'est simple, Dieu t'offre dans les pauvres des porteurs. Eux se rendent là où tu espères aller un jour. Dieu en a besoin ici-bas dans le pauvre, il te le rendra quand tu seras au ciel. Voilà. J'aime bien l'image. Est-ce que vous voulez le portrait du riche, du chrétien qui est riche? C'est dans la première lettre à Timothée. Chapitre 6, versets 17 et suivants. Aux riches de ce monde, écrit Saint Paul, donc, recommande de ne pas juger de haut, de ne pas placer leur confiance en des richesses précaires, mais en Dieu qui nous pourvoit largement de tout, afin que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, s'enrichissent de bonnes œuvres, donnent de bon cœur, sachant partager. De cette manière, il s'amasse pour l'avenir un solide capital avec lequel il pourra acquérir la vie véritable. Donc ça, c'est Saint Paul qui écrit ça à Timothée. Je trouve que c'est un beau portrait. Voilà. Alors, vis-à-vis du prochain, donc, c'est déjà de surmonter l'indifférence. Qu'est-ce que je fais? Oui, il y a plus. Là encore, le pape François, il revient souvent. Hein, cette pauvreté spirituelle qui fait qu'on a les yeux ouverts sur les autres et ceux qui ont besoin. Cette pauvreté spirituelle qui nous ouvre les yeux pas seulement sur les pauvres, mais sur Jésus dans les pauvres. Hein, c'est le fameux dit. La parabole du jugement dernier. Oui. Et puis d'aimer les pauvres concrètement. Voilà. Bon, je m'en arrêter là, il est 3 heures. Conclusion. Avanti! En avant en italien. Pour heureux les pauvres, c'est vraiment pour nous encourager parce que ça ne va pas forcément de soi. Mais Jésus nous dit si, quand tu vas dans ce sens-là, tu es dans la bonne direction. Même si vraiment aux yeux du monde, ça paraît un peu fou, c'est pas. Voilà. Mais tu es dans la bonne direction, donc n'hésite pas à avancer dans ce sens-là. Et qu'à travers ces béatitudes, donc c'est plutôt des qualités de cœur que Jésus veut nous éveiller à certaines qualités de cœur qui sont finalement ces qualités de cœur à lui. Un Jésus qui est doux et pauvre de cœur, doux et humble de cœur. Donc voilà, c'est vivre les béatitudes, c'est aussi se rapprocher de Jésus, comme une autre manière de le dire aussi. Voilà, alors je vous laisse poser des questions, si vous voulez. Ou remarques, ou critiques. Ou...
Moi, la lecture de l'heureux et pauvre, moi j'ai l'heureux et pauvre en esprit.
Non, ça m'a tiré.
Ouais. Et un pauvre en esprit, pour moi, c'est plutôt une personne, soit avec un handicap mental, soit avec une intelligence moindre.
Quand on lit la parole de Dieu, on essaye de savoir le sens littéral. Qu'est-ce que vous voulez écrire Saint Matthieu? Alors Saint Matthieu, ce n'est pas ça qu'il a voulu écrire. Ce n'est pas le simple d'esprit. Ce n'est pas ça qu'il a voulu écrire. Alors nous, on peut l'entendre comme ça, effectivement, mais vous savez, dans la Lectio Divina, la première étape, c'est essayer de voir, et c'est le travail de l'exégèse, qu'est-ce qu'a voulu dire saint Matthieu? Et manifestement, c'est pas ça que saint Matthieu. Même si ça peut entrer dans la. Ça ne l'exclut pas, mais il faudrait. Mais c'est pas d'avoir ça qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est une attitude d'esprit, de pauvreté d'esprit, mais volontaire et pas un peu subie, voilà, mais vraiment volontaire. Mais ça ne l'exclut pas, bien sûr.
Il y a quand même des ordres, comme les franciscains, qui ont beaucoup. Je disais que la pauvreté n'est pas vue dans soi, mais on a l'impression que, par exemple, Saint François, lui, il cherchait vraiment. Bien sûr, c'était comme une victime Dieu, mais pour lui, c'était vraiment très important de se dépouiller, même matériellement, spirituellement.
Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il était. Très, très absolu, hein, on peut dire ça, Saint François d'Assise. Et en même temps, c'est très beau de voir Saint François, il était absolu, mais pas idéologue. Parce que, je ne sais pas, vous vous rappelez, c'est un jour, donc ils dorment dans une cabane, ils étaient un peu tassés dans la cabane, et puis au milieu de la nuit, des grands cris, tout ça. Je meurs de faim. Alors ils allument et voilà, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais ils mangeaient pas beaucoup, hein, donc. Et Saint François, du coup, dit mais non, on va mettre la table en pleine nuit et puis on va manger, et voilà. Et puis il a dit quelque part, justement, pour lui, c'était pas un absolu non plus la pauvreté, même s'il avait des réactions très, très très violente à certains moments, mais en même temps, voilà, il était plus attentif aux personnes. Ce n'était pas de l'idéologie. Mais en même temps, c'est vrai qu'un jour, il revient à la portioncule et puis il voit une maison avec des tuiles, tout ça. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il commence à monter, acheter les tuiles et tout ça pour démonter tout ça. Et les gens lui ont fait remarquer, ça ne t'appartient pas, Saint-François. C'est la commune qui l'a construite. Ah bon, alors il est redescendu. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains saints qui l'ont vécu certainement beaucoup mieux que d'autres, où c'est un appel différent aussi, d'une autre manière aussi. Mais il nous parle toujours, Saint François. Oui.
Les catholiques ont toujours eu un appel théorique contre l'argent. Au 19e, les grandes banques sont des banques protestantes.
Oui, oui.
Leur façon de se comporter avec l'argent n'est pas la même.
Ils sont plus décomplexés que nous. Hein. Nous, on est un peu complexes. On a mauvaise conscience souvent avec l'argent. On a mauvaise conscience. Mais on voit qu'on a tous, selon nos éducations, un rapport avec l'argent différent. Voilà, il y en a qui aiment que l'argent circule. Ils aiment à la fois en demander, mais ça ne leur fait pas un problème d'en donner. Et puis d'autres, non. On fait peu avec peu. Et puis voilà, on en demande pas beaucoup, mais on n'en donne pas beaucoup non plus. Après, il y a des éducations, on a tous des éducations assez différentes, on voit dans la communauté. Voilà, ben c'est comme ça. Hein.
Il y a peut-être certaines références entre un denier qui a coûté la vie du Christ, pour Julien.
C'est-à-dire, pour notre complexe vis-à-vis de l'argent.
Je
ne sais pas si ça vient de là. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas si. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très. On est beaucoup plus complexé, ça, c'est vrai, que les protestants. Voilà.
C'est difficile de trouver juste le milieu, là. Pour...
Alors, oui. Alors, effectivement, dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas été très simple. Parce que de fait, Jésus, on voit qu'il est assez libre vis-à-vis des biens, il n'est pas dans la misère. Et du coup, on le critique vis-à-vis de Jean-Baptiste. Toi, tu es un glouton en ivrogne, parce qu'il se fait inviter, etc. Donc, tandis que lui, au moins, c'était un ascète. Hein. Il mange des sauterelles et puis il n'a rien. Donc, ils le prennent en exemple. Mais dans l'Église, du coup, dans l'histoire de l'Église, on a vu un cours sur le vœu de pauvreté. On voyait que dans l'histoire de l'Église, c'était complexe. Parce que certains, dans la pauvreté, jusqu'où aller? Alors, il y en a, ils sont allés jusqu'à ne plus avoir d'habits et ni rien. Voilà. Je pense que c'est prendre la pauvreté de manière quand même trop littérale. Trop littérale. Et voilà. De toute façon, la pauvreté n'est pas un but en soi. Encore une fois, c'est ce qui est un but, plutôt, c'est la relation avec Dieu et les autres. Du coup, je pense déjà décaler un petit peu ça, la pauvreté n'a pas son but en soi. Et Jésus n'en a jamais fait un but en soi, ça c'est clair dans sa vie. Il a insisté, heureux les pauvres, c'est bien lui qui l'a dit. Mais en même temps, il n'a pas fait de la pauvreté un but en soi. Mais du coup, d'avoir à l'esprit que... il a toujours remis l'argent, il me semble, comme un moyen à sa place de moyen. Un moyen pour la relation aussi. Alors, pas pour acheter une relation, bien sûr, mais pour pouvoir entrer en relation quelquefois, ou pour des échanges. Saint François arrivait aussi dans une période un peu particulière. Hein, c'était... le commerce, etc., le fils d'un commerçant, alors que jusque-là, c'était plutôt le monde rural où on a un rapport avec l'argent quand même très différent. Hein, donc là, le monde du commerce n'est pas du tout la même chose que le monde agricole. Le rapport à l'argent, ça n'a rien à voir.
Quand on est comblé, on a besoin. Et quand on est
Bon, alors je vous laisse discuter entre vous maintenant. Alors, saint François de Sales, par exemple, rend sensible aussi à l'état de vie dans lequel nous sommes. C'est clair que des parents qui ont des enfants ne peuvent pas prendre les mêmes risques que, en théorie en tout cas, que quelqu'un qui n'a pas de famille à nourrir. Donc, si on est célibataire, on peut prendre des risques qu'on ne peut pas prendre en étant, de la même manière en étant parent avec des enfants. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un discernement, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est donné. Et puis, il y a des appels plus particuliers. Il y a certaines personnes, même en famille, qui lâchent tout. Ça peut arriver, mais bon, ça demande un discernement quand même. Ça demande un discernement, une forme de prudence. Mais oui, je peux difficilement vous dire plus. Je ne sais pas très bien. Ça ne doit pas nous dispenser de donner, mais je pense en tout cas un élément extrêmement important, c'est de ne pas se focaliser sur la quantité d'argent qu'on peut avoir, mais plutôt sur qu'est-ce qui nous est nécessaire, et cette idée de la relation. Quelquefois, on peut peut-être se priver de certaines choses. Je parlais par exemple de la voiture, d'avoir qu'une voiture. Mais, ou en communauté, bon, on a un certain nombre de voitures, mais de voir à quel moment, voilà, on ne va pas avoir chacun sa voiture, mais trouver. Mais là, c'est pas. Il faut rechercher un petit peu ce qui convient, mais voilà, pour ne pas avoir toujours le top et tout ça, et de regarder, d'avoir toujours l'œil ouvert à côté, si. Si j'ai beaucoup et qu'il y en a qui manquent cruellement à côté, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas être dans notre île, mais quand on gère nos richesses, mais avoir quand même un regard sur ceux qui sont à côté et puis qui, peut-être, ont beaucoup plus besoin. Donc, je ne vais pas acheter une quatrième voiture. C'est peut-être, si je vois qu'à côté, il y a des gens qui manquent cruellement. Je ne sais pas, c'est quelques éléments de réflexion qui ça mériterait de... Allez-y.
L'Église est quelquefois en contradiction avec ces idées. Parce que si on prend par exemple l'ordre de Cluny, à une certaine époque, ou encore au Vatican, quand le pape François arrive, le Vatican, on sait bien qu'on les appelait princes de l'Église. Ils avaient quand même un train de vie qui était fastueux.
De fait, Cluny et puis même les différentes communautés ont. Quelquefois, ça je ne l'ai pas rapporté, mais quelquefois on a du mal à se détacher, mais le pouvoir public quelquefois s'en charge, hein, au moment de la confiscation des biens de l'Église, ou il y a des périodes dans l'histoire où on n'arrive pas à se priver, mais quelquefois providentiellement, ou je ne sais pas, certaines formes. Ben finalement, en tout cas, c'est comme ça. Et on se retrouve sans qu'on l'ait choisi. Voilà. Et c'est vrai que... Bon, après, le Vatican, il y a beaucoup de mythes aussi. Parce que Benoît XVI vivait pas un train, n'avait pas un train de vie. Après, je pense qu'on a aussi beaucoup de... Le train de vie au Vatican, globalement, n'a pas beaucoup changé entre avant et après le pape François. Après, petit à petit, mais déjà du temps de Benoît XVI, ils ont essayé de recadrer un peu plus au niveau des finances, etc., que ça soit beaucoup plus transparent. Et alors, après, qu'il y ait tel ou tel cardinal qui avait un train de vie et puis un appartement un peu démesuré, ça, bien sûr, mais le péché, il est partout, hein, donc il ne faut pas s'imaginer d'avoir, jusqu'à la fin des temps, y a une purification, bah, tant mieux, mais en même temps... Si on veut tout purifier, il n'y a plus personne dans l'Église. enfin, je veux dire, c'est. Je suis un petit peu vis-à-vis du Vatican. Bon, il y a certainement des abus dans tel. Mais en même temps, tout ne s'est pas révolutionné aussi, parce qu'on se fait beaucoup de films aussi sur les richesses du Vatican, qui ne sont pas forcément après quand on regarde les comptes.
Moi, je suis d'accord, parce que si vivre en connaissance, c'est pas pareil.
C'était un peu la première, le premier point. C'était un peu le premier point, la pauvreté comme misère. La misère, c'est pas avoir le suffisant pour vivre une vie humaine décente. Et du coup, même saint Thomas dit, si on n'a pas ce qu'il faut, le minimum nécessaire, ben pour vivre une vie vertueuse, c'est compliqué. Quand on voit la promiscuité dans des bidonvilles, ben, on peut comprendre que ça soit compliqué de vivre la sainteté quand on n'a pas, et quand il y a une violence, etc. C'est, quand on est dans une petite maison comme nous à la campagne, c'est quand même plus simple. Voilà. Mais.
Oui.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Là, Jésus regarde plus au cœur que. Mais il voit dans la richesse un danger de fermeture des yeux et du cœur. Là, il y a des spiritualités. Je pense qu'il ne faudrait pas opposer les choses. Le curé d'Ars, c'est un bon exemple. Il trouvait tout ce qu'il y avait de plus beau pour son église, et en même temps, il a ouvert une école pour les orphelines, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas, surtout pas opposer les choses. Mais c'est vrai, il y a des textes de saint Jean Chrysostome en particulier qui sont très. Mais oui, tu mets des tas de dorures, tout ça, et puis à côté de ça, tu laisses mourir de faim le pauvre à ta porte. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les choses. La saine doctrine, ce n'est pas ou, c'est et. Ce n'est pas exclure.
C'est le même débat pour Notre-Dame de Paris. Entre
Oui, ça peut choquer.
L'un
n'empêche pas l'autre et n'oppose pas l'autre parce que c'est pas pour autant qu'ils auraient donné de l'argent pour les pauvres. Et donc, autant le prendre pour Notre-Dame. Quelquefois, on se fait des nœuds dans la cervelle, mais du coup, si avec des raisonnements. Bon, plus de financement pour Notre-Dame, mais il n'y en aura pas plus pour autant pour les pauvres. Donc, on aura tout perdu au passage. Mais dans certains lieux, ils veillent quand il y a une. Alors, c'est un niveau un peu différent, mais les foyers de charité, il y a la maison de retraite, et à côté, il y a une œuvre. Alors, souvent, maintenant, c'est des écoles, mais au point de départ, c'était aussi un lieu pour. De charité, plutôt, pour exercer la charité. Tout à fait, oui. Oui. Ben oui, quand on va dans un métro, la relation est assez pauvre, chacun. La relation est pas.